Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Alors Victoire, racontez-nous cette fête de la musique. Comment ça s'est passé?
Ça avait un goût, une très bonne saveur, un bon goût d'avant. j'avais l'impression que c'était il y a un an et demi, voire deux ans. Bon, même s'il manquait un peu de groupe, il n'y avait pas trop de groupes de musique. Mais sinon, les rassemblements, c'était vraiment tout comme il y a deux ans.
Bon, vous avez 19 ans, hein, je le rappelle. Vous n'aviez pas de masque hier soir?
Alors, donc non, puisque les masques ont été, on est autorisé à les retirer. Mmh. On n'avait pas de masque, mais après, c'est vrai que même pour rentrer dans les bars, je pense qu'il devait avoir même pas un dixième qui portait les masques pour rentrer, pour commander ou autre.
Bah, c'est vrai que c'était une soirée un peu particulière. Est-ce que vous avez le sentiment que l'épidémie est finie?
C'est vrai que là, vraiment, en plus avec l'été qui arrive et les beaux jours, donc c'est les rassemblements qui sont de plus en plus. Mais c'est vrai que là, vraiment, on met de côté l'épidémie et la vie d'avant reprend. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur pour la reprise après, en septembre, de la vie universitaire. Parce que s'il n'y a pas tout le monde qui se fait vacciner, car il y a un relâchement dans la vaccination, et bien, c'est vrai que ça fait un peu peur pour la suite.
Vous êtes vaccinée, Victoire?
Alors oui, moi j'ai fait ma première dose et j'ai ma deuxième dose début juillet.
Est-ce que vous avez subi dans votre famille, vous ou un des membres de votre famille, le Covid?
Non.
Est-ce que vous êtes sensibilisé particulièrement à cela? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait attention ou au contraire d'avoir pris ça avec distance et légèreté?
Bah, je pense que quand même on a fait attention. Déjà, on a mis pendant quasiment deux années universitaires de côté notre vie sociale. Donc je pense que oui, on a fait attention. Et puis même là, pour la fête de la musique, on essaie quand même de mettre le masque pour aller commander à l'intérieur ou pour quand il y avait des gros rassemblements.
Bah, pas trop visiblement, vous m'avez dit que personne ne l'avait.
Mais non, mais bah oui, non, mais je disais, il y avait 10% qu'il avait le masque. Et donc, c'est vrai que...
Ah non, mais je vous comprends, parce qu'effectivement, hier, c'est très intéressant d'ailleurs. Vous savez combien il y a eu de cas hier de Covid en France? Il y en a eu 420. Donc, la barre critique, c'est 5000, quoi, critique. En tout cas, c'est la barre qui avait été établie par Emmanuel Macron. Hier, il y a eu 420 cas en France. Donc, effectivement, il y a eu 40 décès. Il y a 1655 personnes qui sont toujours en réanimation et 487 cas, précisément, en 24 heures. Donc, convenons que... l'épidémie, si elle n'est pas arrêtée, quand il y a 487 cas dans une journée, c'est effectivement très très faible. Oui. Victoire, vous avez le sentiment qu'avec vos amis, aujourd'hui, une page est tournée?
Oui, vraiment une page est tournée et c'est le retour à la vie normale, si on peut dire. Et vraiment, par contre, ce que je pense vraiment qui peut être inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on avait la réouverture des bars ou la réouverture des boîtes de nuit en carotte pour se faire vacciner. Et vu qu'hier, on a des rassemblements où bah, on n'a pas forcément besoin de se faire vacciner pour tous se rassembler, pour tous faire la fête, en fait, je pense que les jeunes vont au fur et à mesure peut-être se décourager pour se faire vacciner.
Ah, c'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter d'ailleurs et c'est vrai que ça va être aussi intéressant de voir si dans les 8 jours, dans les 10 jours, il y a plus de cas parce qu'effectivement, s'il n'y a pas davantage de cas après cette fête de la musique et après les images qu'on a vues partout, on pourra se dire comme l'année dernière d'ailleurs que la saisonnalité, c'est l'élément le plus important dans cette maladie et qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse... J'ai envie de dire, cette épidémie, elle est derrière nous, mais en même temps, elle peut revenir en septembre. Mais c'est pas parce qu'on se protège aujourd'hui que en septembre, elle ne reviendra pas.
Oui, c'est ça, malheureusement.
C'est ça, sauf par la vaccination, bien sûr. Mais autrement, il n'y a rien à faire, il y a à attendre. Il y a à attendre, effectivement, et espérer qu'elle ne revienne pas, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là.
Oui, et puis on ne peut pas jeter la pierre sur tous les étudiants et, qui sont aujourd'hui réunis, enfin, qui sont réunis hier pour faire la fête. Ça fait deux ans qu'on les retient un peu sur les starting blocks. Bon, s'il y a eu la pause de l'été dernier. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'étonner que quand il y a un rassemblement comme ça, c'est vrai que tout le monde a envie de se rassembler et faire la fête ensemble. C'est normal.
C'est drôle d'ailleurs parce que ça fait deux fois que vous dites deux ans et en fait, c'est un an. Mais les années comptent double. Mais deux saisons.
On a deux années universitaires qui sont touchées pour le coup.
Je suis d'accord, mais vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup, Victoire.
Merci à vous.
Merci Victoire, qui habitait Aix-en-Provence. Je salue Greg Caranoni en ce début d'émission.
Bonjour, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, non? Mais les années comptent double, c'est, ouais. C'est agréable, c'est gentil. Vraiment, vous avez passé une bonne fête de la musique ?
Oui, j'étais chez moi tranquillement avec ma femme et mon fils, pour tout vous dire. Voilà.
D'accord, et vous avez joué quelques instruments de musique ?
Ah non, ça, il valait mieux pas. Pourquoi ? Parce que ça aurait été un carnage. Je suis un très mauvais musicien.
Ah bon ?
Très mauvais chanteur aussi.
Bon, contrairement à...
Comme vous.
La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous pourrez nous appeler pour parler de l'UEFA dans quelques minutes. L'organisation refuse le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Une action souhaitée pour le match de l'Euro Allemagne-Hongrie demain soir à 21h pour protester contre une loi jugée discriminatoire récemment votée en Hongrie justement. L'UEFA se présente comme une organisation politiquement et religieusement neutre. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes Clément Beaune a réagi en fin de matinée.
Je regrette cette décision parce que je crois que ça aurait été un symbole très fort. L'UEFA argue de règles internes que je peux comprendre, pas de message politique. Là, je crois qu'on est au-delà d'un message politique. C'est un message de valeur profonde, c'est pas une option partisane. Je note néanmoins que l'UEFA a indiqué, je crois ce matin même, qu'elle était prête à autoriser l'élimination des stades en Allemagne et ailleurs. Nous y réfléchissons aussi en France avec la ministre des Sports pour manifester cet attachement européen pendant l'euro, à nos valeurs essentielles. Donc je regarde cette décision, mais il y a des options qui sont ouvertes.
Clément Beaune avec Bénédicte Tassard. La Hongrie salue à l'instant une bonne décision de l'UEFA. Le monde du football peut-il faire de la politique ? Eh bien, Rado, sur la page Facebook de l'émission, ne comprend pas. On permet aux joueurs de mettre le genou à terre pour dénoncer le racisme et les violences, mais pour l'homophobie, c'est différent. L'UEFA se dit neutre, oui, c'est quand ça l'arrange. Pour Patrick, le message est clair, on ne veut pas se fâcher avec la Hongrie. Le stade est plein, ça donne des recettes. L'UEFA a raison quand même, l'ange Jean-François, il faut arrêter de tout mélanger. Sinon, on ne va plus s'en sortir et les matchs commenceront à 23h à force.
Merci Laurent. On est avec Alexia pour évoquer cette fête de la musique hier. Elle est étudiante également en droit à Montpellier et elle est sortie hier. Et manifestement, Alexia, vous n'étiez pas très contente de ce que vous avez vu.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Ah oui, je ne peux pas forcément dire que je ne suis pas très contente parce que j'y ai participé grandement aussi. Mais c'est vrai que les gestes barrières, tout ça, ça n'existe plus trop. Et au début de la soirée, on était en terrasse, par exemple. Et les gens à côté de nous étaient à plus de 8 autour d'une table. Et le vigile du café a eu vraiment beaucoup de mal à les déloger, quoi, parce qu'ils ne voulaient même pas écouter ce qu'on leur disait directement.
Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, cette épidémie, elle est aujourd'hui au ralenti et à l'extérieur, effectivement, les gens sont proches les uns des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ?
Moi, j'en ai aucune idée. Je pense que là, de toute façon, c'est un peu fini. C'est compliqué. C'est l'été. On a le droit d'enlever le masque. Les bars ont rouvert. C'est difficile de dire aux gens de continuer de faire attention alors qu'au final, les vannes sont un peu ouvertes.
C'est un oui, peu puis que les chiffres sont très bas. Les chiffres sont très
oui,
bas.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Donc comme ils l'ont compliqué. Été l'année dernière, à la même époque. Et alors que là, il n'y avait pas de vaccination. Là, on
oui,
est...
c'est ça.
Excusez-moi.
Avec le vaccin en plus,
on est à 32 millions de personnes qui ont reçu la première injection et à 18 millions de personnes qui sont vaccinées.
Oui, bah c'est, comme il y a le vaccin, c'est compliqué de dire aux gens de ne pas sortir alors qu'ils se pensent en partie vaccinés dès la première injection. C'est sûr que c'est compliqué. Après, on est allé dans un bar au shooter avec mes amis et l'ambiance à l'intérieur, c'était comme un bar d'enfants où les boîtes ne peuvent pas vraiment encore ouvrir. Il n'y avait pas de port de masque, on dansait tous les uns sur les autres et il y avait une bonne ambiance puisque les musiques qui passaient, elles étaient pas mal.
Bon, vous, à titre personnel, quel rapport vous entretenez, si j'ose dire, avec cette maladie ? Vous êtes craintive ?
Au début, pendant le début de l'épidémie, quand les hôpitaux étaient vraiment surchargés, ça me tenait à cœur de respecter vraiment un maximum les gestes barrières, pas forcément pour ma famille, parce que on n'a pas été directement touchés, sauf ma grand-mère, mais voilà. Mmh. Et sinon... maintenant que les hôpitaux sont plus surchargés, je trouve que le relâchement entre guillemets peut se permettre parce que ce qui me gênait, c'était que par exemple il y a des victimes collatérales comme celles qui avaient un cancer ou des maladies cardiaques qui pouvaient pas bénéficier des soins dont ils avaient besoin en raison de la surcharge des hôpitaux. Maintenant que les capacités sont là entre guillemets et que la prise en charge est possible, bah, c'est vrai que c'est
c'est plus facile de se dire on relâche un peu le truc.
Il y a 1655 patients en réanimation, je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup Alexia, là aussi c'est un témoignage qui nous intéresse de voir comment vous avez vécu cette période hier, de cette séquence de la fête de la musique, et puis d'une manière plus large, comment vous vivez cette épidémie. Est-ce que vous avez le sentiment par exemple qu'elle est arrêtée, disons le mot. Maëlle est là, bonjour Maëlle, qui a 21 ans, qui est étudiant.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Maëlle. Eh bien écoutez, ça va très bien, vous êtes en Ille-et-Vilaine?
Absolument. Nous, ça a beaucoup moins bougé hier. C'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'au niveau des débordements qu'on a vus, moi, je dépeins le fait qu'on n'ait pas beaucoup respecté un peu la bienséance. Moi, je suis conscient qu'on avait besoin, effectivement, de relâcher les vannes, de s'amuser, de faire la fête, puisque c'était l'occasion de le faire. Maintenant, je le disais tout à l'heure, j'ai absolument moi besoin d'un certain respect vis-à-vis du personnel encore hospitalier. Moi, tout à l'heure, vous disiez 420 personnes qui ont été recensées sur le territoire.
487 cas confirmés hier en 24 heures.
Cas confirmés. Alors, par contre, moi, je vous pose la question, est-ce que les gens aujourd'hui se font tester plus souvent?
Monsieur Megarman, qui est avec nous, qui est le professeur, va pouvoir répondre à cette question. Bonjour, monsieur Megarman.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que les gens se font tester aujourd'hui comme ils se faisaient tester il y a 3 mois? C'est la question de Maëlle.
Alors, c'est une bonne question. Je ne peux pas dire formellement s'il y a une diminution ou une augmentation du nombre de tests. En tout cas, ce que l'on observe, c'est une diminution, par contre, de la positivité de ces tests, qui correspond à une régression de l'épidémie avec une diminution du nombre de cas de contamination. En théorie, il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui, il y a moins de tests effectués qu'auparavant.
Oui, Maëlle.
Oui, tant mieux. La question a été répondue. Moi, je disais simplement peut-être de réagir. C'est que au niveau des débordements qu'il y a eu, c'est un peu normal du fait qu'on ait été enfermé pendant des mois. On est humains tous et toutes, et ces débordements sont tout à fait normaux. Vous avez dit que je suis en Ille-et-Vilaine, tout à fait. À Redon, la rave party qu'il y a eu, par contre, est inadmissible. À partir du moment où on a des forces de l'ordre qui vous somment d'arrêter de faire la fête, vous arrêtez. Et là, on est allé à des affrontements, tout comme dans certaines villes de France. Ça, par contre, ce n'est pas du tout responsable. La première auditrice que vous aviez, Pascal, au début, disait qu'effectivement, il y avait à peine un dixième des personnes qui portaient le masque. C'est pareil, l'épidémie, elle est encore là. Il faut encore en être conscient. On a un variant Delta qui est sur notre territoire. Et à mon avis, si on est dans le même scénario que l'année dernière, peut-être qu'il y aura une reprise de l'épidémie. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut toujours respecter nos personnels soignants qui sont toujours en tension dans certaines parties de la France. Et il faut quand même avoir un minimum de respect pour eux.
Eh bien Maëlle, 21 ans, qui parle, j'ai envie de dire, ça doit faire plaisir à Bruno Megarban, qui est chef du service de Réa à Lariboisière, d'entendre des paroles comme celle-là, puisqu'elles sont effectivement pleines de prudence et de responsabilité. On va marquer une pause et je vais demander à Monsieur Megarban ce qu'il pense de cette séquence. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes donc avec Bruno Megarban, chef du service de Réa à Lariboisière. Rebonjour monsieur Megarban.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été surpris par la rapidité de la décrue de cette épidémie?
Alors, on va dire dans un premier temps, l'épidémie régressait 2 fois moins vite que ce que nous avions observé l'année précédente à la suite du confinement strict. Et ceci était tout à fait logique puisque cette année, les mesures de confinement étaient plus allégées. Par contre, effectivement, maintenant, depuis un mois, il y a eu une accélération de la régression de l'épidémie qui a atteint le même rythme que l'année passée, montrant finalement que la dynamique du virus avec... le réchauffement des températures est à peu près le même, finalement peu sensible à ce qui s'est passé auparavant en termes de mesures de restriction. Et ceci évidemment réconforte dans le sens que désormais on peut vivre un peu plus normalement tout en restant prudent dans les lieux clos.
Est-ce que ce que nous faisons en ce moment dans le respect des gestes barrières et des protections
a des conséquences sur ce qui peut se passer en septembre ou en octobre?
Alors, je dirais oui, quelque part. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le virus n'a pas disparu. Il continue à circuler à un niveau qui va diminuer encore, mais qui va persister. Et de fait, avec l'arrivée de l'automne, la reprise à la suite de l'été des activités sociales et économiques, la recirculation du virus, notamment des variants les plus contagieux, et actuellement c'est le variant Delta, va réapparaître, réémerger. Et donc effectivement, plus on abaisse cette circulation bas, grâce à ces mesures de prévention que sont le port du masque, notamment en espace clos, ces jauges qui sont imposées au moment des rassemblements, et plus on va avoir, on va partir de plus bas pour la suite.
Bah, j'entends bien, mais là on est à 487 cas par exemple hier. Alors, est-ce que selon vous, il faut garder le masque à l'intérieur tout l'été ?
Alors, je dirais oui, par précaution, parce qu'effectivement, on ne sait pas à quel moment il peut y avoir une rediffusion du virus.
Ah oui, mais ça s'arrête. Ça s'arrête jamais.
Voilà. Alors, on va dire, sous nuance, effectivement, que lorsque l'on est en rassemblement de personnes vaccinées, là, effectivement, on peut lever le masque, que ce soit en famille, entre amis. Et bien sûr, lorsque le pass sanitaire garantit cette sécurité. C'est pourquoi, en fait, le pass sanitaire est vraiment le moyen qui va permettre
de retrouver la vie
d'avant. J'entends
bien, mais si j'extrapole votre raisonnement, si c'est la saisonnalité qui fait tout, ça veut dire que en septembre, octobre, ça revient. On repart pour un tour avec du confinement. Pourquoi pas, il va falloir se revacciner derrière au printemps. Et puis, on n'en sort jamais.
Alors, ce qui va changer à la rentrée, c'est qu'effectivement, un nombre très important d'adultes, notamment, on l'espère, les adultes les plus à risque, les personnes âgées, les personnes porteuses de comorbidités, seront vaccinés. Et donc, alors même que le virus va circuler à un niveau important, peut-être pas au même niveau que cette année, mais un niveau quand même malgré tout important, essentiellement parmi les jeunes et les adolescents non vaccinés, donc avec de faibles conséquences en termes d'infection et de morbidité, les personnes à risque seront protégées. Et donc, nous ne devrions pas avoir un afflux important de patients vers l'hôpital.
Je suis d'accord avec vous, ça j'ai bien compris. Mais en revanche, pour notre vie quotidienne ?
Alors, pour notre vie quotidienne,
s'il faut porter le masque tout le temps ?
Oui, très clairement, je pense que le masque sera toujours de rigueur pendant au moins tout l'hiver 2021-2022.
Effectivement, pour toute la vie, en fait. Alors, si c'est 2020, ça s'arrête jamais.
Non, parce que progressivement, l'immunité collective, qu'elle soit post-vaccinale ou post-infection naturelle, sera acquise et donc nous parviendrons vers ce Covid zéro. Par contre, effectivement, à la rentrée, ce qui sera le point le plus important à surveiller, c'est que si jamais il y a une augmentation du nombre de patients infectés ou gravement infectés, c'est-à-dire si finalement la vaccination que nous faisons actuellement ne réussit pas à déconnecter la circulation du virus des infections graves, là, très probablement, il faut s'attendre à ce que le pass sanitaire soit imposé dans les activités quotidiennes de la vie, car évidemment, il n'y aura pas de possibilité de faire du confinement.
Bah écoutez, merci monsieur Megarban, j'ai bien fait de vous appeler, parce que vous nous avez bien remonté le moral. On va porter le masque, selon vous, tout
en
l'hiver,
intérieur.
En intérieur 2021-2022, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Alors j'allais dire, sauf dans les communautés, vous avez bien compris, ou les entreprises, ou les réunions, où on a la garantie que la totalité des personnes sont vaccinées ou présentent un pass sanitaire.
Donc tout le monde, effectivement, va finir par se faire vacciner quoi qu'il arrive, puisque ça sera,
c'est le but.
Ça sera un vaccin obligatoire. Autrement, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez envie de faire en toute liberté. Bah, écoutez, merci vraiment.
Merci
beaucoup
à vous
de votre franchise. Et c'est intéressant toujours d'écouter les spécialistes, même si parfois, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de M. Megarban, ils peuvent se tromper. 13h26, je vous propose de marquer une nouvelle pause. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier est avec nous. Je dois vous dire, Laurent, que les élèves de terminale ont commencé aujourd'hui, hier. A passé le grand oral, l'épreuve inédite du baccalauréat, nouvelle formule jugée impossible
peu déroutante par certains et dont l'organisation est critiquée par les syndicats. Plus de 525 000 candidats au bac général et technologique sont convoqués entre hier lundi et le 2 juillet pour 20 minutes d'exposé et d'échange avec un jury. Ça serait bien qu'on entende, pourquoi pas, un auditeur qui a passé ce grand oral.
Si vous êtes enseignant, appelez-nous dès maintenant au 3210 pour réagir. Nous attendons vos
bien
appels.
Bien sûr, et si vous êtes surtout élève.
Encore plus, voilà.
Parce que c'est pas facile, un grand oral, en même temps, c'est la vie.
Et 20 minutes, quand même.
Mais et alors, quand on passait le bac de français, c'était 20 minutes.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Bac de français, on était en oral.
Oui, mais c'est quand même un moment important, c'est différent de l'écrit.
Mais l'oral est différent de l'écrit, ça je vous le confirme.
Elle est belle, cette phrase, et vous la gardez.
Cher ami, ça je vous le confirme. Mais c'est la vie. C'est l'apprentissage de la vie, qu'est-ce que vous voulez.
Venez
évidemment,
passer votre grand oral.
C'est pas rigolo, on a peur, mais en même temps, c'est des émotions fortes, et c'est ça qui est bien.
Et nous attendons aussi sur d'autres sujets, avec les résultats du premier tour des régionales, le recul du RN, l'échec de La République En Marche, le duel annoncé Emmanuel Macron, Marine Le Pen en 2022 pour la présidentielle. A-t-il, selon vous, du plomb dans l'aile? Regardez bien les scores de ces partis, nous dit Martin, sur la page Facebook de l'émission. Les Français n'en veulent pas, entre la peste et le choléra, je passe mon tour, nous dit Yannick. Après, rajoute Karine, il va falloir les Républicains trouvent leur candidat. Bon courage dans la guerre d'ego. Thierry mise sur un comeback d'Edouard Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Cher Pascal, y a-t-il une ambiance de cours de récréation par moment dans la classe politique? Hier matin sur RTL, Renaud Muselier, président sortant et candidat Les Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parlait de son rival, le candidat RN Thierry Mariani.
C'est un ami de Bachar el-Assad, c'est un ami du grand moufti qui appelait aux martyrs sur notre propre territoire. C'est un ami de M. Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qui a massacré les Arméniens dans le Haut-Karabakh.
Réponse ce matin sur RTL de Thierry Mariani.
C'est un peu caricatural. Je rappellerai quand même que M. Muselier est celui qui reçoit en grande pompe l'ambassadeur du Qatar, c'est-à-dire le sponsor international du terrorisme.
Ces petites guéguerres favorisent-elles l'abstention? Vous dégoûtez de la politique? 32-10, 3-2-1-0.
Benoît est avec nous. Benoît qui est professeur de maths. Je le salue.
Donc, bonjour.
Bonjour. Donc vous avez fait passer ce grand oral qui est une nouveauté, si j'ai bien compris, Benoît.
J'ai fait passer ce grand oral au déboté, puisque j'ai été prévenu hier matin par mon proviseur qui me dit « Est-ce que vous pouvez aller faire passer l'examen à tel endroit parce qu'il manque un correcteur ?» Ou un examinateur, plutôt.
Alors, vous êtes prof de maths, mais c'est un grand oral qui concerne quelle discipline ?
Et qui concerne, chaque élève doit présenter deux sujets au choix sur ses spécialités qui peuvent être maths, physique, SVT, littérature, etc. Et le jury composé de deux personnes, on va dire un candide qui est avec moi et qui est un professeur documentaliste et un prof de maths, en l'occurrence moi, interrogeons cet élève sur son sujet.
Oui, mais par exemple, s'il n'a pas de sujet de maths? Vous allez juger.
S'il passe dans mon jury, c'est qu'il a obligatoirement au moins un sujet de maths.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ouais, ça, c'est important de le préciser.
Ouais, c'est comme vous dites. Sauf que mon documentaliste qui est à côté de moi, qui ne connaît rien aux mathématiques, on en a parlé tous ensemble, enfin à deux en tout cas. L'idée, ça a été c'est de vulgariser au maximum les propos de l'élève pour que le candide qui est à côté de moi puisse comprendre ce que l'élève dit.
C'est quand même très étrange.
C'est de la communication.
Non, mais c'est quand même très étrange. Mais l'autre, alors donc, par exemple, les élèves qui sont allés devant vous avaient tous un sujet de maths et pourquoi pas, par exemple, un sujet de littérature également ou d'autres,
oui,
d'une autre discipline. Mais vous n'avez jamais choisi l'autre sujet?
Ah non, puisqu'il doit être interrogé sur sa spécialité. Donc, s'il est interrogé sur sa spécialité, il tombe dans un jury dans lequel il y a un prof de maths et un prof candide, entre guillemets, un professeur documentaliste, eh bien, c'est forcément les maths qui tombent.
Ah oui, forcément.
L'élève a aussi éventuellement le droit de le faire en langue étrangère. Je vous laisse imaginer si dans le jury, il n'y a pas un prof qui parle anglais, allemand ou autre, ce que ça peut donner.
Bah, c'est-à-dire que sur les deux disciplines, on est d'accord qu'il choisit deux disciplines, l'élève, il faudrait que dans le jury, il y ait un représentant de ces deux disciplines.
Mais Pascal, j'aime beaucoup votre « il faudrait qu'il y ait un jury », parce que c'est là que je crois qu'on va appuyer sur le boule. On va appuyer là où ça fait mal. Ça fait des jours qu'on se bat avec le rectorat pour avoir des convocations. Les convocations qui changent à 1h du matin la nuit. Vous croyez que la personne va être là le lendemain matin à 8h pour faire passer des élèves? Et on s'étonne ensuite au ministère et autres qu'il y a des jurys qui sont renvoyés, des élèves qui sont renvoyés chez eux parce que les professeurs sont absents. Les dysfonctionnements de la machine et de l'administration, on va peut-être falloir les pointer un jour. Le « on est prêt » ou une cyberattaque venue de l'étranger, c'est de la communication. ça devient risible.
Mais vous, vous dites, vous avez été prévenu quand, 24 heures avant ?
J'ai été prévenu hier matin, 9h15, en disant « Ok, je peux y être pour 10 heures ».
Et pourquoi ça ? Parce qu'il manquait un prof ?
Parce qu'il manquait un professeur, oui.
Parce que le prof n'était pas arrivé à 9h le matin.
Parce que le professeur, soit n'est pas venu, soit il était malade, peut-être qu'il était Covid, ou il n'a peut-être pas reçu sa convocation qui est arrivée dimanche à 23h.
Et vous, il n'était pas prévu que vous fassiez passer des grands oraux ?
La semaine dernière, j'étais prévu sur un autre établissement. Samedi à 17h, connaissant les rouages maintenant de l'administration, j'ai regardé le logiciel ou le site sur lequel on reçoit nos convocations. Ma convocation avait disparu. Si je n'avais pas regardé cette convocation disparue, je me serais pointé lundi dans un établissement où je n'étais finalement plus attendu.
Je ne sais pas quoi vous dire, Benoît, parce que jadis, il n'y avait pas d'informatique.
Et ça marchait bien. Mais il n'y avait pas de cyberattaque venue de l'étranger et autres. On est prêt.
Bon, alors, donc en terminale, les sujets qu'ils ont choisis en maths, c'était quoi, par exemple ?
Ah, il y avait des sujets passionnants ce matin sur la méthode de dichotomie et des sujets...
La méthode dichotomie, ça m'a échappé.
Dichotomie, attention, hein, c'est pas comme appeler un dissectomie ni amygdalectomie, c'est pas pour couper ce qui dépasse. C'est simplement une méthode de mathématiques qui permet de couper en deux. Mais par contre, hier, j'ai eu un sujet délirant sur quelle est la probabilité pour une femme d'avoir un enfant trisomique. Voilà. Et il n'y avait rien, ça ne retirait de rien, il n'y avait aucun fondement.
Mais ça, pardonnez-moi, c'est l'élève qui propose ce sujet ?
L'élève propose ce sujet qui doit être ensuite validé.
Mais il le propose comme il veut, ou il a un cahier des charges, où il a le droit d'inventer un sujet qui lui passe par la tête, si j'ose dire ?
Ah, il a le droit d'inventer un sujet qui lui passe par la tête à partir du moment où ça parle de mathématiques, que c'est en adéquation avec le programme de l'année, qu'il va savoir s'exprimer 5 minutes dessus sans être interrompu, ensuite répondre à 10 minutes de questions face au jury composé de deux professeurs, un de la spécialité et un entre guillemets candide, et derrière...
Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette question ? Par exemple, comment vous avez opéré ? D'abord, vous lui avez dit c'est un sujet délirant, c'est un sujet qui m'étonne ?
Je ne vais pas dire qu'on est dans la bienveillance, mais on ne va pas commencer à dire que c'est délirant. Par contre, quand la personne verra sa note, il comprendra que ce qu'il a fait n'a pas été satisfaisant.
C'était un garçon ou c'était une fille qui a proposé ce sujet ?
C'était un garçon.
Et parce qu'il n'est pas arrivé en plus à la bonne, si j'ose dire, probabilité, où il n'a pas fait une démonstration convaincante ?
Quand on vous annonce que la probabilité, c'est une chance sur 1888, sans vous dire de où ça sort ou quoi ou qu'est-ce, vous posez des questions. Dites que ça ne peut pas tenir debout. Alors dans ces moments-là, après la période d'interrogation entre le jury et le candidat est très longue, parce que va-t-on demander, comment va-t-on faire et que voulez-vous dire ? Alors qu'il y a des sujets super intéressants et on a explosé les notes encore ce matin. On a mis un 19, on a mis un 18.
Mais on est d'accord que ce n'est pas l'intitulé du sujet qui est noté en l'espèce. Ça.
Ah non, ce n'est pas l'intitulé.
Oui, c'est la manière
c'est
dont
la
il a...
C'est une fois de plus de la démontre. Communication.
Oui, non, mais que les choses soient claires. Quelle est la probabilité d'avoir un enfant trisomique ? Vous ne sanctionnez pas le fait que cette question soit posée ?
Non, on ne sanctionne pas ça. On sanctionne
la démonstration qui n'a pas été faite ou mal faite.
Exactement, et en quoi elle tient, et est-ce qu'elle a du sens mathématique ? Enfin, voilà.
Écoutez, merci Benoît. Je suis un peu sidéré de tout ce que vous nous dites.
Moi aussi, je suis sidéré de voir où on en est arrivé. Hein.
J'ai une petite phrase, il faudrait noter les phrases, c'est la phrase 12 ou 18, et je la dis régulièrement. C'est bien que cette émission existe, parce qu'on entend des témoignages qu'on n'entend nulle part ailleurs, et c'est vrai que les profs et ce grand oral et... J'allais dire, le mot est très trivial et j'espère que vous me pardonnerez de le dire, mais le bordel que c'est, ou que ça paraît en tout cas avant de se mettre en place, et qu'on me pardonne, mais je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier ce que vous venez de nous dire, ne cesse de m'étonner.
Vous avez peut-être trouvé le bon mot, Pascal, mais je ne l'emploierai pas.
Merci beaucoup, Benoît. En tout cas,
Katia
va être avec nous dans une seconde. Elle est professeure d'anglais et elle va peut-être nous donner également son expérience de ce grand oral. Vous avez passé l'oral, vous également, Greg Karanoni.
Oui, bac de français.
Bac de français, c'était un moment plutôt agréable. Vous étiez bon à l'oral ?
J'étais pas mauvais à l'oral.
Ouais, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a l'écrit et l'oral. Oui. Et on peut être bon à l'oral et mauvais à l'écrit. On peut être bon à l'oral et bon à l'écrit.
Ce qui est votre cas ?
Bon. On peut être bon à l'écrit et mauvais à l'oral.
Et dans la petite liste des phrases en numéro 1, il y a « Vous avez forcément raison pour vous ».
Oui, et vous avez forcément raison pour vous, qui est une bonne phrase, mais vous avez vu que je n'ai pas parlé avec M. Benoît, je n'ai pas parlé de quoi alors qu'il est prof de maths.
Ah oui.
Je n'ai pas parlé d'espace vectoriel. Pas des vecteurs, d'espace vectoriel. Parce que comme vous l'avez dit très justement, ça m'a traumatisé en seconde C j'avais fait. Et après, j'avais obliqué.
Vous vous souvenez du nom du professeur ?
Monsieur Théroitin.
Ah bah oui, évidemment.
Il était Monsieur Théroitin, à Saint-Stan, à Nantes. Il était formidable, Monsieur Théroitin, très intelligent. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h43, Laurent Tessier.
Et j'adore ce sujet. Un cadre sur quatre reconnaît avoir des relations intimes pendant les horaires de télétravail. Selon un baromètre IFOP, alors le télétravail est-il du plaisir, une pause dans la journée de boulot que pratiquent davantage les moins de 35 ans ? Et vous ?
Écoutez, vous nous faites... c'est drôle, c'est un drôle de sujet. Ça. Pendant le télétravail, donc les gens sont en train de faire des câlins.
Voilà, pendant, je ne sais pas, la pause déjeuner ou une petite pause dans l'après-midi, des petits câlins
pour se réconforter. Évidemment, dans l'entreprise, c'est plus compliqué.
Ah oui, ah bah oui non.
Mais ouais, ça peut arriver aussi, ne soyons pas hypocrites. Dans les entreprises, c'est arrivé, certainement, vous avez eu vent depuis que vous travaillez dans les entreprises.
Point du tout.
Jamais. Bon, en tout cas, ça peut arriver. Dans d'autres entreprises
que celle-là, bien sûr.
Oui, évidemment. Cela ne nous regarde pas.
Katia est là et cet oral de bac, ça nous intéresse. D'abord, bonjour Katia. Vous êtes
professeur. Moi, je suis sur l'oral de bac.
Voilà, bien sûr. Oui, bah. Vous êtes professeur d'anglais. Vous avez entendu peut-être le témoignage de Benoît.
Vous
habitez Nancy. Est-ce que vous partagez, non pas son avis, mais en tout cas son témoignage ?
Bah écoutez, je partage son impression générale, c'est-à-dire un petit peu la confusion, parce que moi je suis un peu comme lui. Moi, j'étais pas du tout prévu dans ce grand oral, parce que j'ai fait passer des BTS, donc c'est pas mon domaine, mais même si je suis apte à le faire, hein, bien sûr. Mais j'ai été appelée hier à 9h du matin pour aller remplacer un collègue qui était absent. Donc, et heureusement, bon, c'était pas loin de chez moi, donc j'ai pu y être à 9h30. Mais sachant que le collègue qui interrogeait avec moi attendait depuis 8h du matin, ainsi que tous les candidats, donc c'était un petit peu dommage pour eux, quoi.
Mais là, vous étiez avec un candide également ou vous étiez avec un professeur ?
Non, moi j'étais le professeur candide. Et l'autre professeur était de la spécialité musique.
Mais c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que les jurys sont composés de deux personnes, donc oui. Les élèves qui sont passés, par définition, ont planché sur un sujet musique.
Bah, évidemment, quand je suis arrivée, le collègue avait déjà choisi les sujets, entre les deux que les élèves avaient proposés. La plupart du temps, il avait choisi les sujets de musique. Et l'après-midi, on a choisi ensemble et on n'a pas toujours choisi le sujet musique. Si la question nous paraissait un peu bancale ou pas très intéressante, on a pris l'autre. Donc, par exemple, on a pas pris un sujet sur le procès de Nuremberg. Donc, ni l'un ni l'autre n'étions spécialistes.
C'est ça qui est quand même très étrange. Donc, vous avez jugé un élève sur le procès de Nuremberg. Donc, c'était un sujet histoire, manifestement.
Oui.
Alors que c'était un professeur de musique et un professeur d'anglais qui jugeaient. Mais vous savez, parfois je suis un peu simple. Si on demandait que le procès de Nuremberg soit jugé par un professeur d'histoire, est-ce que ce ne serait pas une meilleure solution pour l'éducation nationale ?
C'est sûr que c'est plus. Mais disons, peut-être que pour l'élève, c'était peut-être mieux d'avoir des gens non spécialistes, mais en fait, l'élève, franchement, on savait plus de choses sur le procès de Nuremberg que l'élève. Donc. C'était pas tellement embêtant. Mmh. C'est ça qui était étonnant, quoi. Je me dis, mais comment il a pu faire signer, donc, parce que la question sur son procès de Nuremberg, là, elle était visée par son professeur.
Donc il a parlé pendant 10 minutes. Alors, moi, ça m'intéresse toujours. Il avait quel âge, ce jeune homme ? Il avait 18 ans, sans doute ?
Oui, oui, il avait 17 ou 18 ans.
Il savait quand même l'âge, il savait quand même l'année du procès de Nuremberg.
Oui, il savait des choses,
quand vous dites que vous en saviez plus, qu'est-ce qui, par exemple, il ne savait pas et qu'est-ce qui vous a étonné qu'il ne sache pas ?
Bah, par exemple, à un moment donné, il nous dit donc il y a des personnes qui ont été condamnées à mort dans le procès de Nuremberg. Et puis, donc on lui dit, ah oui, alors vous savez qui, par exemple ? Donc il nous cite, il nous avait cité les noms de Rudolf Heiss et de Göring. Et puis, on lui dit, alors, ces deux-là ont été exécutés. Alors, il dit, oh oui, je crois. Enfin bon, il n'avait pas vérifié.
Oui, d'autant que Rudolf Hess, il est mort à Spandau. Donc, il n'est pas du tout mort au procès de Nuremberg.
Il ne savait pas. Il avait survolé, en fait. Et après, on lui dit, il parlait de Klaus Barbie. Et puis, il lui dit, ah oui, donc lui, il n'avait pas été jugé parce qu'il n'était pas là. Il était parti en Argentine. Enfin, il était enfui en Argentine. Donc, quand on l'a pu le rapatrier, il dit, il a été aussi condamné à mort. Alors on dit, ah bon, bah c'était en quelle année? Alors il dit, oh bah je crois que c'était en 85. Alors on dit, ah bon, donc il y avait la peine de mort. Alors c'était à Lyon, il y avait de la peine de mort en France. Il dit, ah bah non, peut-être pas, non. Donc en fait, vous voyez, c'était étonnant.
Bah, il n'a pas eu une bonne note alors, cet élève.
Bah non, mais par contre, bon, on n'a pas été trop méchants quand même.
Mais ça m'intéresse, vous lui avez mis combien par exemple?
Mais je pense, parce qu'il n'y avait pas que ça, hein, mais, parce qu'au début, il avait bien commencé, parce que... Le début, ça commence à nous dire, alors imaginons, vous êtes en telle année, vous au sortir de la guerre, voilà. Donc il nous avait mis en situation, donc c'était plutôt, sa démarche, elle était vraiment bien au début.
Donc il a eu la moyenne.
Oui, oui, il a eu la moyenne quand même.
Bon.
Mais donc ça c'est, de toute façon on a été indulgents parce que les pauvres, c'était pour eux cette année, on ne savait pas ce qu'il avait eu comme suivi, on ne sait pas dans ce cas-là si son prof était vraiment présent, s'il avait été en distanciel, on n'en sait rien en fait, donc on ne voulait pas casser les gens quoi.
Bah écoutez, c'est bien Katia, on rêverait d'avoir des bons professeurs ou des bons examinateurs comme vous, mais c'est vrai que pour, je pense que dans ce moment un peu de tension pour un élève qui participe pour la première fois à un oral, il faut être un peu bienveillant quand même, parce que faut l'accueillir avec gentillesse et bienveillance, parce qu'à 18 ans, même si c'est l'apprentissage de la vie, même si, il n'empêche qu'on n'est pas obligé d'être glacial, froid et malveillant.
Ah non.
Non. Eh bien, merci Katia. Merci beaucoup. Vous connaissez cette fameuse histoire, Grégory, du prof d'histoire qui dit dans sa classe « Qui a cassé le vase de Soissons ?» Et il y a un élève qui dit « C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. » Il est 13h.
Eh bien, voilà.
Il est 13h49. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous vous êtes remis de votre blague?
Oui. Elle a une suite.
Ah, elle n'est pas terminée en plus.
Elle a une très bien. Suite. C'est parce que, à ce moment-là, le professeur, il est un peu décontenancé. Il raconte ça dans la salle des profs. Il dit, vous vous rendez compte? J'ai dit, un élève qui a casé le vase de Soissons. Il m'a dit, c'est pas moi, monsieur. Donc, il raconte ça à un prof et le prof lui dit, et c'était lui. Et c'était lui en fait, dit le prof. Cette histoire, je la trouve drôle. Super. Il est 13h52.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Clotilde est là pour parler de l'oral du bac. Elle est étudiante à Hambourg. Elle a 16 ans d'ailleurs, étudiante. Vous êtes lycéenne. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Donc vous êtes déjà en terminale?
Oui, c'est ça, je suis déjà en terminale.
Ben, vous êtes drôlement en avance à 16 ans en terminale, je vous félicite.
C'est gentil, en fait j'ai un an d'avance et dans 15 jours je vais avoir mon anniversaire de 17 ans.
Non, 17 ans et vous allez avoir le bac à 17 ans.
Voilà.
Ben, c'est bien. Et alors manifestement vous êtes en Allemagne parce que vous êtes avec vos parents en Allemagne, donc vous êtes à la fois, vous parlez allemand et vous parlez français.
Oui, c'est ça. Donc je parle allemand, vous voilà.
Bon, l'oral vous l'avez passé là en français?
Oui, en français, c'est ça.
Puisque vous êtes dans le lycée français d'Hambourg. Voilà. Bon, il portait sur quoi cet oral?
Donc sur mes deux spécialités, c'est-à-dire maths et SGGSP, donc géopolitique.
Et vous avez choisi quoi?
Alors moi j'ai pris deux questions, donc j'ai pris dans quelle mesure le complotisme est-il un danger pour notre société? Donc ça c'était ma question en géopolitique. Et ensuite ma deuxième question, donc en maths et en géopolitique, j'ai pris la question suivante. Les mathématiques peuvent-elles nous conduire à un système électoral parfait?
Et quel sujet a été finalement choisi?
Et du coup, je suis tombée sur la question en géopolitique, sur le complotisme.
Et alors, pendant combien de temps vous avez parlé?
J'ai parlé pendant 5 minutes. Et ensuite, on a eu un échange de questions donc pendant 10 minutes. Et ensuite, on m'a posé des questions au sujet de mon orientation future.
Bah, j'ai l'intuition que vous avez plutôt réussi et que vous avez eu une bonne note.
Alors la note, je la connais pas, donc je pense que je vais la savoir, je crois que c'est pour la remise des diplômes qu'on va la voir, donc le 28 juin. Mmh. Donc pour l'instant, je sais pas quelle note j'ai eu, mais oui, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement.
On a le sentiment, en vous écoutant comme ça, que ce que vous dites est extrêmement clair, très précis et sans doute rigoureux. Alors qu'est-ce que vous avez dit sur cette question? En quoi le complotisme peut-il être un danger?
Bah moi j'ai expliqué qu'en gros ces derniers temps, donc par exemple avec l'affaire Mia, il y avait un palier qui était clairement franchi en termes de complotisme. Et donc il y avait vraiment un impact réel sur notre société. Et ensuite j'ai abordé donc des exemples comme par exemple l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier. J'ai aussi parlé du fait que ça produisait une perte de confiance dans les institutions. Et donc ça avait tendance à fragiliser une démocratie. J'ai aussi parlé d'un sondage IFOP qui était paru en 2018, qui expliquait le genre de personnes qui étaient le plus touchées par le complotisme.
Et c'est qui, précisément ?
C'est qui, c'est-à-dire ?
Qui sont les gens qui sont le plus frappés par le complotisme ?
Alors, dans ce sondage, il expliquait que c'était surtout les personnes de moins de 35 ans, ou ceux encore qui étaient issus de classes plus défavorisées ou qui avaient peu d'études, qui allaient être plus touchés par ces genres de tests complotistes, et aussi les personnes donc, qui se disaient dans le sondage adhérer à des partis extrêmes, type extrême droite ou extrême gauche.
Ben non, mais c'est un sujet très intéressant. Et pourquoi vous aviez choisi ce sujet, Clotilde ?
Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment un attrait donc, pour la géopolitique, pour tout ce qui a un rapport avec la démocratie, les médias. Et parce qu'en plus, moi plus tard, j'aimerais vraiment devenir journaliste. Et donc, c'est un des enjeux justement des journalistes, des médias, le fait de la désinformation, par le biais notamment des tests complotistes.
Clotilde, c'est la première fois que vous nous appelez ?
Oui, c'est la première fois.
Ça serait vraiment intéressant de garder dans les archives votre témoignage, parce que si ça se trouve, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura une émission de télé ou une émission de radio qui dira Clotilde, vous serez dans je ne sais quel média, vous serez là où vous avez eu envie d'être toute jeune, et on vous fera réécouter ce que vous disiez en le 22 juin 2021, et vous serez peut-être surprise, comme moi je peux l'être, hein, de la clarté de votre exposition, de la grande maîtrise que vous avez de sujets qui ne sont pas simples, hein, disons-le. À peine 17 ans, vous allez avoir 17 ans dans combien de temps, Clotilde ?
Le 8 juillet,
vous m'avez dit. Donc, bah, écoutez, bravo à vous, hein, vraiment bravo à vous. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un cerveau, j'allais dire, comme celui-là, parce que c'est dans la vie, c'est parfois plus facile, et notamment dans les études, en tout cas, Clotilde.
C'est gentil.
Et qu'est-ce que vous voulez faire donc après, avant d'être journaliste, vous comptez faire vos études en France ou en Allemagne ?
En France, et donc sur Parcoursup, là actuellement j'ai gardé dans mes voeux donc une licence de droit à la Sorbonne.
Oui.
Et pour après accéder à des écoles de journalisme probablement. Ou sinon j'ai pris des classes préparatoires, donc là je suis en attente sur celle-là, des classes préparatoires donc avec maths et géopolitique, et ce qui permet aussi après d'accéder à des écoles de journalisme par exemple.
Bah écoutez, moi je suis impressionné, je suis souvent impressionné par la qualité des jeunes auditeurs ou auditrices, c'est souvent d'ailleurs des auditrices, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça Greg.
Absolument.
Mais nous avons des auditrices qui sont étudiantes et qui sont tout à fait remarquables comme Clotilde. Merci beaucoup Clotilde.
Merci.
Vraiment merci beaucoup. Il est 13h58. Le flash dans une seconde, je raconte plus d'histoire. Ça vous apprendra parce que vous vous moquez de moi.
J'ai reçu un coup de fil de Laurent Ruquier là pendant le
Non, c'est vrai ou
non,
pas
Non, c'est pas vrai.
Bon, ah bon.
Qui voulait vous recruter aux grosses têtes.
Mais elle est
grâce
drôle.
À cette histoire formidable.
Elle est géniale cette histoire. Qui a cassé le vase de Soissons?
Ah non, on est reparti.
C'est pas
là.
Moi monsieur, c'est pas moi. Et formidable. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Olivier Bois, le flash.
Les salariés de Ouigo sont appelés à faire grève le week-end du 3-4 juillet, le premier week-end de gros départ en vacances, pour dénoncer les conditions de travail et réclamer plus de reconnaissance. C'est l'UNSA, la CFDT et Sudrail qui sont à l'origine de ce mouvement. Ils réclament entre autres une gratification exceptionnelle pour saluer, selon eux, l'engagement pendant la période de la pandémie. En ce qui concerne la réforme de l'assurance chômage, le Conseil d'État suspend finalement les nouvelles règles de calcul qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. La jurisprudence juridiction, si elle ne remet pas en cause le principe d'une réforme, estime en substance que ça n'est pas le moment, vu les incertitudes de la situation économique. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, sera ce soir sur ce sujet l'invité de Thomas Soto à 18h15. Le drame de la famille Troadec à Orvault, le procès d'Hubert Caouissin s'est ouvert ce matin. Il est accusé donc du meurtre de son beau-frère, de sa belle-sœur et de leurs deux enfants. Il les avait frappés avec une barre de fer avant de les transporter pour tenter de faire disparaître les corps dans son jardin. Il a redit ce matin à la barre qu'il n'avait pas l'intention de les tuer. Il risque la perpétuité. La haine qu'il portait à son beau-frère se nourrissait d'une histoire de trésor familial, soi-disant caché, qui aurait été volé. Les recherches continuent à Beauvais pour tenter de retrouver un jeune homme de 18 ans. Il est signalé comme étant tombé dans une rivière hier soir lors des violents orages qui se sont abattus sur la ville. D'importants moyens sont déployés. Le quintet à Nantes, l'arrivée provisoire à l'instant. Photo finish pour la victoire entre le 2 et le 13. Le 7 arrive 3e et photo finish à nouveau entre le 4 et le temps de demain, de la pluie sur le sud-ouest et le centre Val-de-Loire. Ce sera plus ensoleillé sur la moitié nord et sur toute la partie est de la France. Température, il fera entre 13 et 19 degrés demain matin sur la moitié nord. 16 à 24 degrés dans le sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous sommes avec Nicolas qui est là. Bonjour Nicolas, et nous allons parler de l'UEFA. L'UEFA refuse le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Et cette action souhaitée pour le match de l'Euro Allemagne-Hongrie demain à 21h était au départ imaginée pour protester contre une loi jugée discriminatoire récemment votée en Hongrie. Le monde du football peut-il faire de la politique ? C'est cela. Alors, il y a deux poids, deux mesures, parce que d'un côté, l'UEFA accepte que les joueurs mettent un genou à terre, mais manifestement, l'UEFA n'accepte pas ce projet de la ville de Munich. C'était la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Nous sommes avec Nicolas qui voulait donner son avis et qui habite d'ailleurs du Maroc.
Oui, c'est ça, j'habite au Maroc.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Bonjour Nicolas.
Bonjour. Alors moi, je me posais la question surtout en quelle mesure la défense des droits de l'homme, c'est de la politique. Parce que moi, je trouve ça très louable de défendre les droits de l'homme, comme le genou par terre il y a quelques semaines. Et je trouvais ça tout à fait normal également. Et là, en l'occurrence, moi, vivant au Maroc, dans un pays où l'homosexualité est condamnée, où le football, c'est la deuxième religion, c'est un petit peu provocateur de dire ça, où les matchs de la Coupe d'Europe sont retransmis quasiment dans tous les cafés ici, parce que c'est vraiment suivi religieusement par les Marocains, le foot. Et je me dis que ça aurait été un signal magnifique, quoi.
Quand vous dites que l'homosexualité est condamnée au Maroc, et ça aussi c'est un témoignage qui nous intéresse toujours, c'est-à-dire que les gens sont emprisonnés lorsqu'ils sont dénoncés homosexuels, oui, ou lorsqu'ils sont punis ?
Oui, c'est passible de 3 ans de prison.
Et voilà. Et comment dire, c'est effectif ?
Alors 3 ans, c'est rarement effectif, mais 6 mois, 1 an, ça arrive très régulièrement. Des fois même sur la base juste de soupçons. Il y a même eu 2-3 ans où il y a eu une affaire comme ça, où c'était un Anglais, un ressortissant anglais qui s'était fait arrêter, qui s'était retrouvé en prison, juste sur la base de photos trouvées dans son téléphone.
Bon, je referme la parenthèse et je reviens sur l'UEFA. Donc vous regrettez la décision de l'UEFA. Et je disais que ce qui est étonnant, parce que bien sûr que c'est de la politique, bien sûr, de défendre les droits de l'homme. Et au contraire, même, c'est vraiment un geste politique très fort. Mais ce qui est étonnant dans l'UEFA, c'est que le combat contre le racisme est accepté avec ce genou qui est mis à terre. En tout cas, c'est l'interprétation que les joueurs en font. Mais en revanche, effectivement, l'homosexualité n'est pas... ce combat contre l'homosexualité, l'UEFA ne le prend pas en compte.
Eh ouais, je comprends pas du tout, effectivement, cette différence de traitement. C'est inexplicable.
Le secrétaire d'État français, d'ailleurs, aux affaires européennes, Clément Beaune, a regretté ce refus. Il a dit mardi déplorer le refus de l'UEFA de permettre l'illumination du stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Je regrette cette...
Oui. On parle juste d'une illumination en plus. C'est pas un discours, c'est une élimination, c'est rien de plus, quoi. Mmh. C'est pas grand chose, ça va pas retarder le match, ça va pas déranger le match.
Mais c'est une prise de pouvoir et l'UEFA ne le voulait pas, manifestement, une prise de position. Amélie est là également. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Vous avez 35 ans et vous habitez à Avignon et au contraire, vous êtes d'accord avec l'UEFA.
Ben, oui, parce que... Bonjour Pascal, pardon, d'abord.
Bonjour.
Simplement, je pense qu'on mélange un peu tout, c'est mon avis. Hein. Un genou à terre, il y a une histoire derrière. Si on parle purement football, hein, parce que là, on est dans l'UEFA, on peut juste se rappeler récemment, on va dire les 30-40 dernières années, ce qui se passe dans les stades où les personnes de couleur... se font hurler dessus avec des cris de singe en jetant des pots de bananes, etc. C'est un exemple. LGBT, comme vous le dites là, enfin je répète ce que vous dites, c'est une communauté. Je déteste ce terme d'ailleurs, mais je vois pas quel est le rapport entre le slogan No Racism, parce que c'est ce qui est c'est ce qu'on montre à la télé, et le mouvement LGBT. J'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'UEFA. Parce qu'en fait, après, ça va ouvrir la porte à tout.
Non, mais ce qu'on peut imaginer dans l'explication, c'est que là, c'était pour protester contre une loi hongroise.
Oui. Alors,
Comprends. La Hongrie pouvait se sentir. Effectivement, attaquée par l'UEFA.
Oui.
En tout cas, par l'Allemagne et donc par aussi l'UEFA qui cautionnait ça. C'est une tentative d'explication que je donne.
Alors, dans ce cas-là, si on suit votre chemin, Pascal, la Russie n'est pas moins tendre avec la communauté LGBT. On peut donner plein d'exemples et personne n'a rien dit. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, là, mais la Hongrie, que la Hongrie ne soit... qu'une loi, par exemple, soit discriminatoire votée en Hongrie, la difficulté pour l'UEFA, c'était de contester cette loi dans le cadre de l'euro, par l'intermédiaire d'un stade illuminé, et que là, vous arriviez sur un incident diplomatique avec Orban, qui dirige Hongrie, et qui pouvait dire, attendez, moi je me retire, pourquoi pas? Vous voyez, j'extrapole. C'est une tentative d'explication, hein, je ne suis pas certain de... Ouais, que ce soit la réalité.
Je pense que l'UEFA n'a pas à prendre position. Ils ont eu raison de refuser. C'est mon avis.
Ben merci en tout cas, Amélie. Merci de votre éclairage. Macron-Le Pen, est-ce que vous souhaitez ce duel? On va être Abdelatif. Il va nous donner son sentiment. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur...
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le duel Macron-Le Pen aura-t-il lieu et le souhaitez-vous? Il semble que depuis l'élection régionale de dimanche, le problème c'est qu'on fait des grands coups de barre. De la même manière que ces élections régionales, il ne faut pas en tirer des conséquences définitives, il ne faut pas non plus ignorer le résultat. Mais là, j'ai le sentiment qu'on remet tout en cause, et notamment ce duel Macron-Le Pen. Abdelatif, qu'en pensez-vous?
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Parce que j'en pense, c'est que je voudrais dire plus simplement qu'on nous a écrit un scénario à l'avance, hein, depuis 2 ans, en nous disant de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura un second tour de 2022, Macron-Le Pen. Mmh. Alors je ne sais pas si les élections régionales ont tout changé, mais en tout cas, le peuple français, l'électorat français, a finement donné une réponse, hein, très fine et très extraordinaire, en disant ben, je ne veux pas de ce duel, en rejetant les deux. Parce qu'on voit que dans les élections régionales, que le président a voulu être une répétition de 2022, que Marine Le Pen a utilisé aussi en être désignée comme l'opposante principale de M. Macron. Aujourd'hui, les Français intelligemment ont dit bah, « Écoutez, on va siffler la fin du match et on va voir un nouvel horizon ». De nouvelles personnes et qu'on ne peut pas écrire.
Mais oui, mais alors, qui vous voyez, par exemple, Marine Le Pen, si les candidats, si les électeurs du Rassemblement National ne trouvent pas Marine Le Pen la mieux placée pour représenter leurs idées. C'est ça que la petite musique que j'entends. Qui peut remplacer Marine Le Pen?
Je ne pense pas, Monsieur Pro, Pascal Pro, qu'un seul moment on puisse dire que Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2022. Je ne le pense pas du tout. Non, il faut quand même arrêter de rêver. Personne ne dira à Marine Le Pen d'aller chercher ailleurs. Marine Le Pen, il sera.
Non, mais la question, c'est qu'elle sera candidate, bien sûr. Mais si la question, c'est est-ce que le duel, est-ce qu'elle sera dans la dernière ligne droite ? Et si ce n'est pas elle, c'est qui ?
En tout cas, aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Je vais vous donner juste un sondage que j'ai bien étudié, qui date à peu près de 3-4 semaines. Et c'est un sondage qui fait peur un peu au président de la République. Dans tous les cas de figure, le président de la République est le seul candidat avec Marine Le Pen où il va avoir un petit écart. Vous prenez Xavier Bertrand, il est à 57 contre Marine Le Pen. Et même Pécresse, c'était mieux que le président de la République dans un scénario de second tour. Donc ça veut dire que demain, peut-être Marine Le Pen sera là parce qu'elle a un socle d'électorat qui ne va pas bouger. Mais par contre, aujourd'hui, personne ne dira qui va être en face d'elle. Est-ce que c'est le président ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Mais elle, on sait qu'elle sera là. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si je reviens deux secondes sur les erreurs des politiciens. Marine Le Pen et son parti, ils ont fait de cette élection régionale, comme le président, une répétition du second tour. Ils ont proposé aux Français tout simplement des thèmes qui n'ont rien à voir avec le conseil régional ou le conseil général. Ils ont proposé des thèmes nationaux, les Français, et les jeunes surtout qui n'ont rien compris, ils sont restés chez eux. Ils ont fait ce qu'on appelle une réponse politique avec l'abstention. Ce n'est pas une abstention comme ça, c'est une réponse politique. Je ne pense pas qu'ils sont allés à la pêche, je ne pense pas que c'est... Il y a peut-être un peu du Covid, mais de la crise sanitaire, mais c'est une réponse politique pour dire maintenant, on veut une clarté dans les positions, on veut une clarté, on veut savoir où nous allons. Et moi, je dis bravo les Français.
Bah, merci Abdelatif pour ce commentaire très pointu en politique. François est là également, qui habite Deauville. Peut-être que François, nous l'écouterons après la pause.
Absolument.
Bon, j'ai beaucoup de gens qui me félicitent pour la qualité de mon histoire. Je suis un peu déçu qu'elle ne vous ait pas touché, cette histoire.
Quand vous dites beaucoup, c'est votre femme.
Une personne. Une personne qui m'a dit que c'était bien.
On peut avoir le nom de la personne ?
Non, parce que ce n'est pas utile.
D'accord.
Je ne souhaite
Mais
pas...
donc c'est quelqu'un que nous connaissons, du coup.
C'est quelqu'un qui apprécie l'humour et l'esprit.
C'est la meilleure vanne, celle-là, par contre.
À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes donc avec François qui veut évoquer ce duel Macron-Le Pen. Aura-t-il lieu ou pas ?
Bien, je ne pense pas. Non, je ne pense pas parce que la France, en ce moment, on voit bien que c'est un pays de droite, la France. Il suffirait par exemple que M. Bouquet ou M. Bertrand puissent faire un programme vraiment de droite et réformer l'État. Parce que regardez, les gens ne vont plus voter. M. Macron, il a pris la gauche, il a pris la droite, il a tout pris, tout le venant, tout ce qui venait, il l'a pris dans ce gouvernement. On voit vraiment le désastre. Il a même été élu sans programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme. Vous avez vu le coût des vaccins, les masques, c'est un désastre total. Regardez la délinquance dans les rues. Il ne se passe rien. Les gendarmes sont obligés de faire, la police est obligée de faire demi-tour. Vous vous rendez compte, c'est très très grave. Les Français, ils attendent un programme d'un homme de droite parce que la gauche, elle a fait des rêves. Elle n'a que des rêves et que des rêves. Et Mme Le Pen, on l'a vu au débat, elle est incapable de qui que ce soit. Vous voyez, elle a fait, vous savez, elle a écarté ses bras, ainsi et ça, mais on n'attend pas ça d'un président de la République. On attend un chemin, un vrai débat sur la délinquance et puis une réforme d'État. Parce que regardez, les mille feuilles, il y en a ras-le-bol, les mille feuilles.
Alors, j'entends, mais qui, dans l'offre politique du jour, vous convient ?
Ben, il faudrait, moi je vais vous dire, un vrai homme d'État, ce qui reste à peu près... mais qui veulent tuer, qui sont en train de dégommer, c'est Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, quand vous l'écoutez parler à la télé, quand vous écoutez les petits soldats parler, comme regardez, je suis pourtant tendance droite, Monsieur Bertrand c'est un petit soldat, Madame Pécresse c'est des petits soldats. Quand vous écoutez Monsieur Sarkozy parler, c'est-à-dire ça veut dire quelque chose. Il y a un programme dans ces phrases-là.
Je peux entendre ce que vous dites.
Il est tout léger. Madame Le Pen est incapable.
Je peux entendre ce que vous dites, d'autant que Nicolas Sarkozy a été président de la République. Il a été léger. Il est légitime, pourquoi pas. Mais il n'empêche qu'il est aujourd'hui percuté par des soucis judiciaires qui sont une entrave, pour le moment en tout cas, à une élection au mois de mai prochain. Alors, hormis lui, est-ce qu'il y a un candidat qui vous convient ?
Bon, ben, moi, je pense que M. Wauquiez, c'est le premier de la classe dans la droite. Hein. Vous voyez, je suis pas tendance sur n'importe quel, vous savez. Sur... Pour moi, c'est les petits soldats. M. Wauquiez, c'est un petit soldat. M. Bertrand, c'est un petit soldat. Madame
Bon, Pécresse, donc, il n'y a personne soldat. Hormis Sarkozy.
Ben, trouvez-moi, par exemple, citez-moi un cas du charisme. Vous voyez, on voit tout de suite un homme d'État qui a du charisme, on ne le voit pas.
Il y a quelques hommes d'État, j'imagine, j'espère, dans l'univers politique aujourd'hui, à droite comme à gauche. Il y a aussi des jeunes personnes, parfois, qui montent.
Oui, mais vous savez très bien...
Citons, par exemple, regardez, Adrien Quatennens, par exemple, de la France Insoumise. C'est un garçon qui a un certain charisme, qui a un pouvoir de conviction. Non, et il est à l'extrême gauche.
Mais c'est un désastre extrême. Vous savez très bien.
Je partage les avis d'Adrien Quatennens. Je dis que formellement, il a un pouvoir de conviction, pourquoi pas un charisme personnel. Et de l'autre côté, je pourrais citer à La République En Marche, Gabriel Attal, c'est sûrement quelqu'un qui a un avenir politique également.
Il n'est pas mûr. C'est comme si vous vouliez ramasser des fraises avant l'heure. Il n'est pas mûr.
Oui, je ne vous dis pas qu'il est mûr. Je vous dis que j'essaye de citer, de trouver à droite comme à gauche.
Moi, vous cherchez, vous ne trouvez pas.
Si regardez, vous attendez Charles de Gaulle, effectivement, ça va être compliqué. Mais
ça, je vous crois. Non, mais des hommes comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Oui. Mais remarquez, monsieur Sarkozy avait le charisme. Regardez, pendant la grande crise qu'il y a eu en 2008, excusez-moi de vous dire, il a sauvé les portefeuilles d'un paquet de personnes en France. Hein. Et regardez, il a fait le G20. C'est quand même lui qui a tapé dans le système pour remuer la chose.
Et convenez à droite, parce que je n'ai pas cité à droite, il faut que je cite à droite, convenez que Valérie Pécresse, qui incarne une modération dans sa présidence région Île-de-France, c'est une femme qui commande une des premières régions de France. Elle n'est pas née de la dernière pluie non plus, elle a un certain parcours.
Mais je vais vous dire ce que les Français attendent, Monsieur Pro. Les Français attendent une réforme de l'État. Vous avez vu les votes qu'il y a eu dimanche?
Mais je suis d'accord avec vous là sur la réforme de l'État.
Alors il n'y a pas un homme ou une femme qui puisse dire une réforme de l'État,
si, je suis d'accord.
Ça se passe comme ça.
C'est vous qui avez raison.
Il va falloir économiser plus de 100 milliards pour boucher le trou du déficit de l'État, le déficit public. Quand est-ce qu'il va y avoir un homme qui va surgir? Il faut absolument en trouver un. On ne peut pas rester avec des déficits de plus de 100 milliards tous les ans, c'est pas possible comme ça. Alors, pour eux, ils sont tous à la même crèmerie, c'est-à-dire que tout va bien, 20-30 000 euros par mois, ils changent rien. Regardez les intercoms, il faut...
Alors, j'ai trouvé qui pourrait surgir. J'ai trouvé un nom. Écoutez.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
Il y en a des euros avec les masques en ce moment.
Voilà, François, faut que Zorro. Il n'y a que Zorro.
Oui.
C'est Surgi qui m'a fait penser à Zorro.
Oui, parce que regardez, vous me parliez de Mme Pécresse. Mme Pécresse, j'ai rien contre, je suis tendance pour elle, alors vous voyez. Mais agir de quoi? C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'idée pour réformer, économiser. Il va falloir arrêter le gaspillage de l'État. Moi, j'ai pas été voté dernièrement, je peux vous le dire. Pourquoi aller voter pour des gens qui gaspillent tout? Il n'y en a pas un qui fait des économies dans leur programme.
François, c'est l'heure du débrief.
Vous verrez qu'il n'y a pas d'économie.
Je suis obligé de vous couper, c'est l'heure du débrief. Et c'est M. Tessier qui est entré dans le studio, tel Zorro lui aussi.
Après 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Hier soir, c'était la fête de la musique. Et une question à notre réalisateur Greg Caranoni.
Vous avez passé une bonne fête de la musique?
Oui, j'étais chez moi tranquillement avec ma femme, pour tout vous dire. Voilà.
D'accord, et vous avez joué quelques instruments de musique?
Pipo.
Je vous en prie, Greg, comme diraient les inconnus.
Cela ne nous regarde pas.
Oui, mais je sais que notre réalisateur a d'autres talents, non?
Je suis un très mauvais musicien.
Ah bon?
Très mauvais chanteur aussi.
Contrairement à...
Comme vous.
Je vous laisse juger les performances vocales de Pascal Pro, rappelez-vous.
Forever young.
Ah oui. Forever young, mais never chanteur. Hein.
Alors, mesdames, messieurs, je vous propose d'élire la meilleure casserole de l'émission. Oui, lançons le jingle, Greg Caranoni. Poussez la chansonnette, Greg. Forever young.
Vous voulez vraiment que je chante maintenant, là?
Allez-y.
Forever young, I wanna be. Ah, bah, ils se sont retournés, vous voyez.
Allez, le grand oral a démarré hier pour les lycéens du bac général et technologique. 20 minutes d'exposé et d'échange avec un jury, mais tout ne se passe pas comme prévu. Benoît est professeur de maths dans le Nord.
Les convocations qui changent à 1h du matin la nuit, vous croyez que la personne va être là le lendemain matin à 8h pour faire passer des élèves? Et on s'étonne ensuite au ministère et autres qu'il y a des élèves qui sont renvoyés chez eux parce que les professeurs sont absents. Ça devient risible.
Ah, les mathématiques, quel cauchemar pour certains d'entre nous.
Mais c'est 1 plus 1 égale 1. Ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Eh oui, fort bien, des notions aussi trop complexes.
La méthode dichotomie, ça m'a échappé.
Oui, dichotomie, attention, hein, c'est pas comme appeler un dissectomie ni amygdalectomie, c'est pas pour couper ce qui dépasse. C'est simplement une méthode de mathématiques qui permet de couper en deux.
C'est cela, oui.
C'est très clair, on ne se quitte pas sans une blague qui vaut le détour. Bientôt une nouvelle grosse tête l'après-midi sur RTL.
Prof d'histoire qui dit dans sa classe « Qui a cassé le vase de Soissons ?» Et il y a un élève qui dit « C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. »
Oui, c'est très fort.
Mais elle a une suite.
Ah, elle n'est pas terminée en plus.
Ça ne s'arrête pas là, la blague continue.
À ce moment-là, le professeur, il est un peu décontenancé. Il raconte ça dans la salle des profs. Il dit « Vous vous rendez compte ?» J'ai dit « Un élève qui a cassé le vase de Soissons, il m'a dit « C'est pas moi, monsieur. » Donc il raconte ça à un prof et le prof lui dit « Et c'était lui. » Et c'était lui en fait, dit le prof. Cette histoire me tombe drôle.
Oui.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec un message de Claude François pour vous, Pascal, après cette blague.
Mais
c'est déjà trop tard.
Mais c'est du second degré. Vous n'êtes pas sensible à l'absurde. Vous êtes sensible à Flavie Flamand, peut-être, qui est là aujourd'hui pour quelques jours encore à 14h30. Elle sera après, plus tard. Nous l'avons dit hier, hélas. Et on va en profiter. À tout de suite.
Vous allez le dire tous les jours ?
Oui.
Ah, d'accord.
Pascal Praud, les auditeurs.